Et nous sommes très contents d'être avec vous. Je pense que c'est la première fois d'être avec vous pour le dimanche matin depuis que nous sommes sur Bordeaux, malheureusement. Mais nous sommes très contents d'être là ce matin. Je pense qu'on a eu beaucoup d'occasions d'être avec vous. Nous remercions le Seigneur pour cette église et nous avons eu la joie d'être avec la famille Bixby et avec vous. En plusieurs occasions, je pense à notre contact avec la famille Bixby depuis mon enfance, depuis peut-être l'âge de 4 ans quand on était ensemble dans la République centrafricaine où mes parents travaillaient ensemble avec Robert et Annie. Donc j'étais un enfant, c'était tonton et tati, et le sont toujours. Nous sommes contents que le Seigneur nous a emmenés jusqu'à Bordeaux en 2012. On n'était pas très loin, comme Lala a dit, peut-être à 20 minutes s'il n'y a pas trop de circulation sur la rocade. Et pour les occasions qu'on a eues d'être ensemble, je pense aux soirées du Nouvel An que nous avons passées ensemble avec vous, les retraites à Perguillot. Beaucoup d'entre vous sont toujours présents ou étaient présents pour certaines retraites. Je pense au culte en anglais que nous avons eu avec vous, avec Robert et Annie et plusieurs d'entre vous. Nous avons été contents de participer à ça. Et puis au cantate aussi, nous étions là pour les deux derniers cantates, le centurion et puis l'étoile perdue. De travailler ensemble avec vous et avec Robert et Annie pour ces grands projets. Ce n'était pas des petits travaux, mais c'était un plaisir de pouvoir participer avec vous dans ces ministères. Je pense au repas à Gap, j'ai eu l'occasion d'assister une fois le groupe de jeunes. Nous remercions l'Église aussi pour votre accueil, pour nos jeunes. Nous sommes à Saint-Médard dans une toute petite église qui commence, qui débute. Depuis 3 ans, nous sommes des fois une vingtaine. On a 2 jeunes, Adriana et Cassandra cette année. Merci pour votre accueil dans votre groupe de jeunes et pour le ministère que vous faites pour eux. Je sais que c'était un moment de joie aussi pour eux chaque mois de participer cette année. Merci pour vos prières pour l'église à Saint-Médard. Vous savez, nous sommes petits. Même dans nos églises, nous ne sommes pas très nombreux par rapport à ceux qui nous entourent. Nous avons besoin les uns des autres. Et nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Et vous êtes dans nos prières aussi. Et nous avons besoin de vos prières. Merci de prier pour cette œuvre. Fragile toujours. On pense peut-être que nous allons perdre une famille de 5 qui fait peut-être un quart de l'assistance s'ils trouvent un travail sur Paris. Donc nous savons que vous êtes aussi dans la situation de perdre les personnes. C'est Dieu qui est notre responsable, notre souverain. Et c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui dirige. Et comme il nous a emmené cette famille l'année dernière, et ils ont rencontré le Seigneur chez nous. Et il n'y a pas très longtemps que nous avons eu l'assurance de leur bouche qu'ils l'ont accepté par la foi. Des deux parents et aussi la fille aînée. Il y a deux autres enfants plus petits. Merci Seigneur pour l'œuvre qu'il fait dans nos cœurs et dans les cœurs des gens qui l'emmènent chez nous. Je sais que vous nous avez aidés aussi dans la distribution des flyers pour l'église, aussi pour la cantate. Donc on a eu au moins 2 fois une équipe de l'église de Pessac qui nous ont aidés dans notre œuvre là-bas. Merci à chacun d'entre vous qui ont aussi participer par vos mains et vos pieds pour nous aider Merci pour le temps d'adoration ce matin, pour les rappels que nous avons vus, notre richesse en Dieu. Et on peut se demander, mon monde, il est comment, ma vie, dans ma vie? Peut-être pas dans notre monde, parce que notre monde n'est pas très stable. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, toujours. Si on regarde les infos, il ne faut pas se méfier toujours à ce qu'on entend. Mais il y a beaucoup de bougements, de bouleversements dans notre monde. Mais dans notre monde, à nous, personnel, il est comment? Est-ce qu'il est bouleversé ou est-ce qu'on est dans cette paix que le Seigneur nous offre? Ce qu'il a fait pour nous, pour nous offrir la vie éternelle. Là, on parle de l'éternité, mais aussi la vie aujourd'hui que nous avons en Jésus-Christ. On connaît le Seigneur, Dieu, à travers la Bible. La Bible nous parle de lui, comment il est. On rencontre ses attributs qui nous parlent de son caractère. Il est omniscient, il sait tout. Il est tout puissant aussi. Il peut tout faire. Il peut faire tout ce qu'il veut faire. Il est auto-existant. Ça veut dire qu'il existe par lui-même. Il ne dépend pas d'autre chose ou de quelqu'un d'autre. Il est auto-existant. Il est aussi éternel. Donc c'est la parole qui nous montre ses attributs. Et nous voulons concentrer notre ensemble ce matin dans sa parole sur son éternalité, que Dieu est éternel, et de voir quel est l'effet de cette vérité dans ma vie, dans votre vie. Il faut commencer avec une claire idée de ce que c'est d'être éternel. Et je peux vous dire ce que ce n'est pas. Des fois, on voit des choses, même j'ai vu dans notre boulangerie à Saint-Médard, sur une affiche, 4 chocolatines pour le prix de 3, je pense, et en petite lettre, plaisir éternel. Je rigole. On peut prendre peut-être du plaisir en mangeant une chocolatine. J'avoue, ils sont très bons. Mais plaisir éternel, je ne crois pas. Le plaisir est là pour quelques instants. Et c'est parti. Donc, ce n'est pas cette idée d'éternel. Ce n'est pas le vrai éternel. Larousse.com définit éternel comme qui est sans commencement ni fin. C'est ça, d'être éternel. Pas de commencement, pas de fin. Ou hors du temps. Donc, qui n'est pas limité dans le temps. Et c'est cela, cet attribut de Dieu. Il est éternel. Il n'a pas eu de commencement. Il n'a pas de fin. Il existe hors du temps, il n'est pas limité par le temps. Le temps nous pose beaucoup de limites, mais pas lui. Il existe depuis l'éternité passée et il existera jusqu'à dans l'éternité future. Et tous les attributs que Dieu a aussi sont liés à son éternalité. Ce qu'il est, il a été éternellement dans le passé, il sera aussi éternellement dans l'avenir. Donc tout est lié à son éternalité. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous donner 3 réalités par rapport à notre Dieu éternel. Ces réalités auront, si on les croit, si on accepte ces vérités, ils auront un effet radical dans notre vie aujourd'hui. Avant de commencer de voir le premier, on va prier, demander que le Seigneur bénisse la vérité de sa parole et de sa personne dans nos vies et dans nos cœurs. Merci Seigneur de nous bénir de ces moments ensemble ce matin. Je te remercie personnellement pour le privilège d'être là dans cette église qui t'est précieuse. Merci pour chaque membre de cette église, pour chaque personne qui est là. Merci pour Annie. Et merci pour le ministère de Robert pendant toutes ces années. Et merci pour le ministère qui continue aujourd'hui dans les mains de tes serviteurs. Je te prie de bénir ces moments, que tu scelles les vérités de ta parole dans nos cœurs et que tu nous aides à les mettre en pratique, de voir comment nous pouvons vivre encore plus pour ta gloire à travers ces moments ensemble dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bon, la première réalité de ce Dieu éternel que je voulais partager ce matin, qui doit avoir un effet sur notre vie, c'est qu'il est le maître de temps. Il est éternel et il est le maître de temps. C'est lui qui a dit en Genèse chapitre 1, verset 14, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours, les années. Bon, il n'est pas seulement le maître de temps, mais il est aussi l'auteur du temps. C'est lui qui a eu cette idée de temps. C'est lui qui a créé le soleil, les étoiles qui marquent les jours, les nuits, les mois, les années. On peut se demander aussi d'où vient notre semaine, l'idée de la semaine, 7 jours, 6 jours de travail, 1 jour de repos. Ça ne vient pas de l'homme. Il faut remonter à la création. Ce que Dieu a fait quand il a créé le monde, il a travaillé, il a créé pendant 6 jours. Qu'est-ce qu'il a fait le 7e jour? Il s'est reposé. Donc c'était son idée, ce temps, ces divisions de temps. La semaine, je pense presque tout le monde dans notre monde pratique la vie d'une semaine. 6 jours de travail, 1 jour de repos. Je pense que Dieu savait que nous aurons besoin de ce rythme. On a besoin de se reposer. On sait que ce jour de repos, c'était pour le Seigneur. Et pour nous, c'est pour le Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Mais Dieu qui a créé le temps, il n'est pas attaché au temps. Donc il l'a créé, mais il n'est pas attaché. Le temps ne contrôle pas Dieu. C'est Dieu qui contrôle le temps. Mais le temps ne le contrôle pas. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui décide. Il y avait 2 occasions dans la Bible que nous trouvons où il est intervenu dans le temps pour changer le rythme du temps. Il a arrêté carrément le temps. On peut penser quand il a arrêté le soleil pour prolonger le jour pour Josué et pour les enfants d'Israël dans leur bataille. Dieu a arrêté le jour, le soleil et arrêté le temps. Peut-être s'il y avait des montres, le temps était arrêté. Les minutes ne continuaient pas jusqu'au moment où Dieu a laissé continuer le jour. Aussi une autre fois pour le roi Ézéchias, pour lui montrer qu'il a accepté qu'il vit encore plus longtemps. Il a reculé même l'horloge de quelques heures. Donc Dieu n'est pas limité par le temps, mais c'est lui qui est le maître de temps. Donc des choses qu'il fait sont impossibles à l'homme, nous ne pouvons pas. Des fois nous voulons avoir encore 1 heure de plus pour accomplir quelque chose. C'est impossible à l'homme, mais pour Dieu, c'est rien. Il est le maître du temps. Donc le soleil, la lune, les étoiles qu'il a créées, ils sont obéissants à leur Créateur qui les a faits et qui les a mis à leur place par sa parole. En nous, nous vivons en temps réel. Nous vivons de minute en minute, moment en moment. Et nous ne pouvons pas échapper ce temps. Nous sommes contrôlés, même limités, par le temps, par les montres, par les horaires. Mais même dans les endroits où il n'y a pas de montre, d'être pas d'horloge, le temps limite. Le soleil se lève et le soleil se couche. Il n'y a pas de possibilité à prolonger. On est tous limités par le temps. Mais Dieu, il habite éternité. Il est libre de toute limitation du temps. Exode 3, 14 dit, Dieu du buisson ardent a dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il a utilisé le verbe au présent. Il n'a pas dit « j'étais » ou « je serai ». Non, « je suis ». C'est son nom. Il dit, « tu vas dire que je suis t'a envoyé. » Donc, un des noms de Dieu montre qu'il est toujours présent, au présent. Et en Jean 8, 58, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit, je suis. Donc Jésus montre à ceux qui l'écoutaient qu'il existe là, avant qu'Abraham a vu le jour. Jésus a dit, je suis. Donc il montre son éternalité. Donc on ne peut pas penser à une ligne, à une corde, qui n'a pas de fin dans cette direction et n'a pas de fin dans cette direction, c'est l'éternité. Et nous, dans notre petite vie, nous vivons dans une petite pointe sur cette ligne. Donc notre temps, peut-être que même si nous avons 70 ans ou 80 ans, c'est juste une petite pointe sur la ligne de l'éternité. Mais Dieu, il habite en dehors de notre temps, dans l'éternité. Sans les limites du temps. En tant que le maître et l'auteur du temps, Dieu connaît le nombre de mes jours. Il les a comptés déjà. Il sait combien de jours je vivrai. Psaume 139, verset 16, dit, « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. » Donc, Dieu m'a déjà vu dans le ventre de ma mère. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Dans son livre, à lui, à Dieu, il avait déjà inscrit tous les jours qu'il voulait nous destiner. Et le verset continue, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Donc, avant que j'aie vu le jour, Dieu savait déjà combien de jours je vivrai. Il les a dans son livre. Dieu qui est éternel a sous ses yeux maintenant toute ma vie. Il sait ce qui m'attend demain, après-demain, combien d'années je vivrai. Il voit aussi la fin de ma vie sur la terre. Et c'est pourquoi il n'est jamais surpris par un événement dans notre monde, dans notre vie, parce qu'il sait déjà, il voit déjà ce qui va se passer. Nous pouvons vivre dans des terres étrangères avec des titres de séjour, mais nous pouvons penser que nous sommes tous, tout le monde, sont des résidents de court séjour sur la terre. Nous sommes là pour un instant. Nous sommes limités. Mais Dieu, qui est éternel, est le maître. Il est le maître de temps, il est le maître de ma vie et de toutes les vies qui seront vécues. Le psalmiste dit, « Avant ma naissance, tu connaissais déjà le nombre et le contenu de tous les jours que je vivrai. » Il sait exactement ce qui va se passer dans ma vie, dans tous les jours. Donc ce fait doit avoir un effet radical dans ma vie, aujourd'hui, dans ma manière de penser. Et dans ma manière de vivre, dans ma manière de me confier à Dieu. Il est digne de ma confiance. Il sait. J'ai beaucoup de questions par rapport à l'avenir, à demain. Mais Dieu n'a pas de questions. Il n'y a pas de point d'interrogation chez lui. Il sait déjà. Il a son plan. Et je peux me confier à lui. Et je dois me confier à lui. Ce qu'il veut pour moi, ça devait être mon désir de me conformer à sa volonté, parce que sa volonté est parfaite. nous pouvons nous confier à lui. Donc, Dieu est le maître du temps. La deuxième réalité de ce Dieu éternel, qui doit avoir un effet aussi dans ma vie, c'est qu'il ne vieillit pas. C'est difficile à imaginer quelqu'un qui ne vieillit pas. Tous les jours, tous les ans, on se rend compte de l'âge qui progresse. Mais Dieu ne vieillit pas. Mais quelle est l'importance de cette réalité? À part Dieu, tout autour de nous vieillit. Toutes les personnes, mais notre monde même, est sous les limites du temps et vieillit. On peut voir dans notre monde que tout augmente au niveau du désordre. Ce n'est pas l'ordre qui devient de plus en plus complexe, non. La science nous enseigne, non. Tout est en dégradation, contraire à l'idée de l'évolution qui est aussi enseignée. Mais c'est contre la science même, parce que ce n'est pas ça qui arrive, ce n'est pas ce qu'on voit dans notre monde. Tout vieillit et le désordre multiplie. Donc l'homme, toute la création même, se fatigue, vieillit, s'épuise. Tout est périssable à part Dieu. Il ne vieillit pas. C'est seulement lui qui est éternel. Il n'avance pas en âge. Ésaïe 40, chapitre 40, verset 28, dit « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Ce Dieu d'éternité ne se fatigue pas. Il ne s'épuise jamais. Et Jésus a dit en Apocalypse 1, verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. » Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc Jésus fait référence à son éternalité, mais aussi à sa toute-puissance. Donc il est tout-puissant et il est tout-puissant éternellement. Il ne va jamais diminuer dans sa puissance. C'est le contraire dans notre vie. Nous devenons fatigués. Ça ne demande pas beaucoup pour nous fatiguer. Mais Dieu n'est pas comme ça. Spurgeon, je pense que vous avez rencontré ce prédicateur d'Angleterre dans le 19e siècle. Il a écrit, il a été un grand prédicateur, baptiste, à Londres. Il a dit « Les pensées de l'homme sont que pour un moment et ses voix que pour une saison. Dieu est éternel quand il pense. » Ses pensées durent à jamais. Et quand il agit, ses voies sont éternelles. Donc nous sommes limités, notre pensée, notre agissement est éphémère. C'est maintenant et après, il faut refaire, il faut continuer. Mais Dieu, ses pensées, ses voies sont éternelles. Vous pouvez chercher psaume 102. On va lire versets 25 à 28 dans un instant. Et nous pouvons nous encourager dans ce fait que Dieu ne vieillit pas comme moi. Même si je ne serai pas là pour mes enfants un jour, Dieu sera là. Il est éternel. Je sais que ma vie est limitée. Si Jésus ne revient pas nous chercher avant, un jour, je mourrai, c'est sûr. Mais Dieu sera là. Il ne meurt jamais. Donc, ce psaume est une prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il expose sa plainte à l'Éternel. Donc, psaume 102... On va lire verset 25 à 28. « Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de ma vie. Dans cette phrase, le psalmiste reconnaît Dieu et le maître de sa vie. Sa vie dépend sur Dieu. Le jour de sa mort, c'est dans les mains de Dieu. Il continue, toi dont l'existence traverse les générations. Donc Dieu n'a pas eu un commencement, une fin, mais son existence traverse toutes les générations. Verset 26, autrefois, tu as fondé la terre. Nous disons, autrefois, on a fait ça. Oui, autrefois, il a fondé la terre. Il a créé la terre, l'univers, le ciel et l'œuvre de tes mains. Donc, il était déjà là avant la création de tout ce qu'on voit. Il était là. Eux, le ciel et la terre qu'on voit, verset 27, ils disparaîtront. Tandis que toi, tu restes là. Donc, il sera toujours présent. Même après que la terre disparaisse, Dieu sera toujours là. Il continue, ils vieilliront tous comme un vêtement. Nous savons, les vêtements vieillissent. Même notre vêtement préféré. On ne va pas pouvoir le garder toujours. Mais le psalmiste dit que la terre, le ciel, ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les remplaceras comme un habit et ils céderont la place. Donc Dieu va faire une nouvelle terre, nouveaux cieux, comme nous changeons de vêtements. Verset 28, mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Donc notre Dieu éternel n'a pas de fin. Il ne vieillit pas comme moi, comme tout ce que je vois sur la terre. Il ne vieillit pas. J'ai toujours pensé que mes parents seraient toujours là dans ma vie. Et je ne pouvais pas penser à ma vie sans eux dans ma vie. Peut-être que si vous êtes jeune aujourd'hui, vous avez cette même pensée. On ne peut pas imaginer la vie sans nos parents. Et c'est le moment de profiter de leur présence maintenant. Ils sont là. Un jour, si Jésus ne revient pas avant, ils ne seront pas là. Et ce jour m'est arrivé. Mais je me souviens des paroles que ma mère m'a adressées quelques mois avant que le Seigneur l'a appelée. Et elle pensait qu'avec sa santé qui se dégradait, elle allait partir. On ne savait pas si on allait se revoir avant qu'elle ait appelée auprès du Seigneur. Nous, on était en France, elle était aux États-Unis, très loin. Et j'ai dit à maman, « Mais maman, parce que mon père était déjà auprès du Dieu. » Il l'a appelé il y avait quelques ans avant. Et j'ai dit, maman, mais je ne sais pas comment je peux survivre si tu n'es pas là. Et elle me disait quelque chose qui m'a fait penser aussi à l'éternalité de Dieu. Dieu sera là. Comme il a été là pour toi quand il a appelé ton père, il sera là. Et tu l'auras avec toi. Il va t'aider comme il t'a aidé quand il a appelé papa. Et c'est vrai. Il est toujours là. Même si mon père terrestre est avec le Seigneur au ciel, maintenant, je ne l'ai plus avec moi, j'ai un père céleste qui est là, qui est toujours là. Il a promis de ne jamais nous abandonner. Il est là. Et c'est pareil ici pour Robert. On a, je pense, jamais imaginé un jour, peut-être après la retraite, mais qu'il ne serait pas là avec nous. Et c'est difficile toujours d'imaginer ce fait. Mais le Dieu qui, par sa grâce, l'a appelé auprès de lui, qui l'a accueilli dans sa présence et qui l'a servi toute sa vie, avec qui il voulait être. Ce Dieu l'a appelé, il est éternel et il est toujours là. Il est présent avec vous. Et il a promis aussi de poursuivre l'œuvre qu'il a commencée en nous. Philippiens 1:6 dit, il va continuer cette bonne œuvre jusqu'à sa fin, jusqu'à l'achèvement de cette œuvre qu'il a commencée en nous. Et il peut le faire parce qu'il ne vieillit pas. Il est toujours là et ne change pas. Donc je suis persuadé que cette vérité devrait avoir un effet dans ma vie aujourd'hui et dans notre vie à tous qui sont au Seigneur aujourd'hui. Quelle rassurance pour moi, quel réconfort pour moi, pour nous, de savoir que Dieu ne vieillit pas, qu'il est là pour nous. Et si je m'appuie sur cette vérité, est-ce que j'aurai la paix dans mon cœur? Est-ce que Satan peut enlever cette paix si je m'appuie sur cette vérité que Dieu est là, qu'il ne vieillit pas, qu'il reste avec moi? Donc, quelle paix aurai-je dans mon cœur, quoi qu'il arrive, dans notre monde, autour de nous, dans notre pays, dans d'autres pays autour de ce monde, que je m'appuie sur cette vérité. Donc je dois me confier en ce Dieu qui est éternel, qui est le maître, l'auteur du temps, aussi le Dieu qui ne vieillit pas. Et la troisième réalité qu'il doit avoir en effet sur ma vie aujourd'hui, c'est qu'il est un refuge éternel pour nous. Ce Dieu qui est éternel, il est notre refuge. Et c'est seulement en lui que nous pouvons trouver ce refuge dont nous avons besoin. Cherchons Deutéronome chapitre 33. On va lire versets 26 et 27 dans ce chapitre. Donc c'est à la fin de la vie de Moïse. Il parle aux tribus d'Israël. Il va laisser, il sait que ces jours, la fin de ces jours arrive. C'est Josué qui va continuer avec le peuple. Donc on trouve ces paroles dans les dernières paroles de Moïse. Verset 26, Deutéronome 33, 26 dit: personne ne peut se comparer au Dieu de Jeshurun. Jeshurun, un autre mot pour Israël. Donc c'est le Dieu d'Israël. Mais personne ne peut se comparer à lui. Il est seul. Il est incomparable. Il n'y a personne comme lui. Il chevauche le ciel pour venir à ton aide. Je ne sais pas si vous connaissez l'idée de chevauche. J'avais besoin de chercher. Ce n'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Mais il chevauche comme quelqu'un qui est sur un cheval, qui vient vite au secours de quelqu'un. Il chevauche le ciel, Dieu, notre Dieu, pour venir à ton aide, à notre secours. Il n'est pas juste un Dieu très loin dans le ciel, non. Il est là à côté de moi quand j'ai besoin de son aide. Il est là. Il est présent. Il chevauche avec majesté les nuages. Donc il est là, en majesté. Ce grand Dieu incomparable, avec tous ses attributs, il est là, à côté de moi. Il est mon refuge. Il vient à mon secours. Des fois, on regarde vers les autres choses ou les autres personnes. Dieu était toujours là. Et il voulait nous aider. Combien de fois il voulait nous aider? On ne regardait pas vers lui. On regardait à autre chose. Mais Dieu, il veut venir à notre secours. Verset 27. Le Dieu d'éternité est un refuge. Sous ses bras éternels est un abri. En quelle image de ce Dieu, ses bras éternels nous donnent un abri. Nous pouvons nous réfugier sous ses bras éternels. Dans la Bible de Sommeur, il est depuis toujours un soutien ici-bas, sur la terre. Je suis sur la terre et il est depuis toujours un soutien pour moi. Et le psalmiste dit en psaume 91, verset 1, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Donc, il y a un abri. du Très-Haut. Et si j'habite sous cette abri, il veut que j'habite là, que je reste là. C'est pas que je viens, je pars. Non, il veut que j'habite sous cet abri du Très-Haut. Et là, je peux me reposer à l'ombre du Tout-Puissant, à son ombre. Il y a un repos. Verset 2, Psaume 91, verset 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est toi qui es mon refuge, ma forteresse. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Verset 4, il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Je pense qu'on a une image d'une poule qui couvre ses petits poussins avec ses ailes pour les protéger contre tout danger. Elle est là pour les protéger. Et le verset dit, lui, Dieu, il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Le verset termine, verset 4, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc, on est protégé par sa fidélité. Il est toujours fidèle. C'est notre bouclier. C'est un bouclier. Moïse savait que l'éternalité de Dieu était très importante pour Israël quand il a écrit le psaume 80, donc un chapitre avant. Le psaume 90, pardon, psaume 90, verset 1, prière de Moïse, homme de Dieu. Moïse dit, « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. » Donc, Moïse savait déjà, même si les livres du Pentateuch étaient écrits par Moïse sous l'inspiration de Dieu, il y avait beaucoup de générations qui étaient déjà passées avant que Moïse fût né. Et Moïse sait que Dieu a été un refuge de génération en génération avant et il sera en avenir. Les hommes viennent, ils partent. Même ceux qui pensent qu'ils sont le plus fort, le plus grand dans notre monde, un jour, ils ne seront plus là. Mais Dieu est un refuge de génération en génération. Il existe pour éternité. Il est un Dieu éternel. Notre vie est éphémère. Il est de passage. Même si nous nous sentons très forts, ça ne va pas durer très longtemps. Jacques décrit notre vie comme une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Je pense que vous avez tous vu les vapeurs. Quand une vapeur sort de quelque chose comme un diffuseur, ou même dans la cheminée, on voit les fumées, une vapeur, il est là un moment et après, il est où? Il est parti, il n'est plus là. Et Jacques dit, c'est comme ça notre vie, c'est comme une vapeur. On l'a aujourd'hui, mais c'est limité. Un jour, on ne l'aura pas. Il sera parti. On naît et on meurt. Mais Dieu continue. Il est un refuge éternel, de génération en génération. Verset 2. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde. Donc il y a presque 7000 ans en arrière, avant la création de notre monde. D'éternité en éternité, Moïse dit, tu es Dieu. Il n'y a pas de limite. Tu continues. Il est le Dieu d'éternité qui est un refuge éternel pour ceux qui se confient en lui. Il n'est pas possible qu'il soit surpris par un événement, parce que pour lui, l'histoire du passé, ce qui va arriver demain, les prophéties sur le futur, qu'il en a donné plein dans sa parole, c'est rien pour lui, c'est facile pour lui, parce qu'il habite éternité, il sait tout, il existe d'éternité en éternité. Donc il habite le passé, le présent et l'avenir. Pour lui, tout est maintenant. Nous vivons dans ce moment qui passe. Mais lui, tout est maintenant. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es présent. Tu es en refuge. Donc, il sait tout déjà. Donc, je peux dire avec le psalmiste, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Toi qui es mon refuge, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et tu es mon refuge. Donc, puisque tu es mon refuge, mon abri, je peux dire, je ne crains, ne redoute aucun mal, parce que tu es là, tu es avec moi. Et ce Dieu éternel, qui est un refuge éternel, a fait l'homme pour l'éternité. Et ça, c'est bon. Même si nous vivons juste dans le temps, instant par instant, Dieu nous a fait pour l'éternité. Il y a ici quelque chose qui répond aux questions sur le sens de la vie. Pourquoi Dieu a-t-il fait l'homme? C'est dans le catéchisme de Westminster, le but final de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir de lui pour toujours. C'est le but final de l'homme, de glorifier Dieu et de se réjouir de lui, ou de jouir de lui pour toujours. Ecclésiaste 3, verset 11 dit que Dieu a même mis dans le cœur, dans leur cœur, la pensée de l'éternité. Donc Dieu a mis dans le cœur de chaque homme dans notre monde. Pourquoi il y a autant de religions, autant de personnes qui cherchent le sens de la vie? Pourquoi je suis là? Pourquoi Dieu a-t-il? Ou pourquoi j'existe, même s'ils ne croient pas en Dieu? Pourquoi j'existe? Quel est le sens de ma vie? Quelle est ma raison d'être? Et qu'est-ce qui arrivera après la mort? Il y a la pensée de l'éternité que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, de tous les hommes. Donc il y a cette pensée. J'ai entendu le témoignage un jour de quelqu'un qui a cherché Dieu parce qu'il voulait savoir à qui donner ses remerciements pour tout ce qu'il avait. Donc, il savait que toutes ces choses qu'il avait n'étaient pas là par hasard. Il fallait trouver quelqu'un pour le remercier parce que ce n'était pas juste un hasard. Il savait. Il a cherché jusqu'il a trouvé. C'est Dieu. C'est Dieu qui donne les dons. Tous les dons que nous avons, toutes les bonnes choses que nous avons, c'est Dieu qui nous les a données. Même notre vie, le souffle de vie. Tout ce que nous avons, c'est Dieu. C'est lui qui a mis cette pensée de l'éternité, de chercher ce sens de la vie. Et c'était le Dieu éternel qui a mis ces pensées-là dans le cœur de l'homme. Et ils sont là parce que je dois penser aujourd'hui à mon éternité. Où serai-je pour l'éternité? Un jour, je mourrai. Mais après, qu'est-ce qui m'arriverait? Je dois penser à mon destin éternel. Je me souviens un jour, j'étais en Afrique, en République centrafricaine, on a fait un voyage. Et j'étais ensemble avec mes parents, on voyageait de Subut à Bambari. Et la route était assez bonne à cette époque. Des fois, c'était pas très bonne. Mais on est arrivé à une vallée. On a vu qu'il y avait un grand accident qui a eu lieu. On était les premiers à arriver. C'était un grand camion plein de sacs de café. Et les freins ne tenaient pas. Et donc, sous la colline, la vitesse, et puis le camion a été renversé. Il y avait une personne qui était venue, il y avait des personnes aussi mortes sur le camion. Et une personne qui est venue vers la fenêtre de notre véhicule, qui demandait de l'aide. Et sa première pensée, c'était quoi? C'était le café. Mon patron, Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ce café? Les vies étaient en train de passer dans l'éternité. Et mon père, on a avancé, on a enlevé tout ce qui était dans le véhicule pour faire la place. Il a pris des personnes toujours vivantes pour les emmener à l'hôpital le plus proche, à Greenery. Et il pensait toujours à ce café. Le café. Et on a entendu après que toutes les personnes, même ceux qui étaient emmenés à l'hôpital, étaient mortes. Des blessures qu'ils avaient. Qu'est-ce qui est important dans notre vie? Est-ce que ces choses, est-ce qu'on vit pour des choses éphémères? Ou Jésus a dit, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est l'âme, et qu'est-ce qu'on peut donner en échange pour son âme? C'est l'âme qui est éternelle, pas ces choses-là. Dieu nous a fait pour éternité. La mort de notre corps est sûre, mais ce n'est pas la fin. Hébreux 9:27 dit, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Il y a un jugement final qui nous attend après notre mort. Un jour, nous allons tous nous tenir devant Dieu, le Dieu éternel, mais qui est saint et qui est juste. À ce moment-là, sur quelle base Dieu peut-il nous laisser entrer dans sa présence au ciel? Sur quelle base? En quoi est-ce que nous avons mis notre confiance? La Bible nous parle de ce jugement où tout le monde rendra compte à Dieu pour tout ce que nous aurons fait. Et puisque Dieu sait que personne n'est sans péché, il s'est intervenu personnellement sur cette terre pour pouvoir procurer le salut de toute âme qui croit en lui. C'est son programme de la rédemption de l'homme qui a poussé ce Dieu qui habite éternité en dehors de notre temps, et qui l'a poussé à sortir de ça pour entrer dans notre monde d'espace et de temps avec ses limites. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Son amour n'était pas un petit amour, mais il a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné son Fils unique. Un prix, un très grand prix à payer pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné et Jésus est venu. Le Dieu éternel aime le monde. Il a tant aimé le monde. Il m'aime. C'est difficile à imaginer. Et il nous aime chacun. Autant de venir sur la terre pour prendre notre péché sur lui. Dieu a donné son Fils unique pour quiconque croit en lui. Donc, puisqu'il est éternel, il m'aime depuis l'éternité passée, depuis avant que la terre soit créée. En Jésus-Christ, Éphésiens 1:4 dit, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Il m'a choisi pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Donc il m'aime, il m'a choisi avant même la fondation du monde, la création du monde. Donc il m'aime depuis l'éternité passée, il m'aime pour toujours. La Bible dit en Jérémie 31:3 que Dieu m'aime d'un amour éternel. Donc l'amour que Dieu a pour moi, c'est un amour éternel. Qui suis-je pour être aimé d'une telle manière? Est-ce que j'ai accepté par la foi cet amour de ce Dieu éternel, le pardon de Dieu pour mon péché? Est-ce que j'ai accepté? Jésus est mort pour mes péchés, pour me pardonner. Mais c'est seulement en recevant son pardon, en se repentant de mes péchés, que je peux procurer ce pardon pour moi-même, que ce soit personnalisé pour Jonathan. Dieu nous aime d'un amour éternel. Et si j'accepte son pardon éternel, il me donne l'immortalité et mon âme ne mourrait jamais. Mon corps mourra, mais mon âme sera dans sa présence pour toute éternité. Donc, qu'il est la vie éternelle, Jean 3, 16. La vie éternelle, c'est par la foi que je reçois cette vie éternelle. La vie éternelle de Jésus-Christ qu'il donne pour moi. Moi qui suis temporaire, qui vis dans le temps, mais il partage sa vie éternelle avec moi. Donc cela ne me rend pas éternel comme Dieu est éternel, parce que j'ai eu un commencement. Donc je ne deviens pas éternel comme Dieu. Dieu n'a pas eu de commencement. Mais j'aurai l'immortalité, je ne mourrai jamais quand j'ai cette vie éternelle. Si je suis un enfant de Dieu, si j'ai déjà reçu ce don de Dieu, la vie éternelle, Moïse nous donne un bon conseil aussi dans le psaume 90 et dans le verset 12. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour savoir utiliser le temps qu'il nous donne, les jours de cette vie qui dure que pour un moment, pour un instant. Donc comment je devais les utiliser? Verset 12, psaume 90 dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Donc Dieu, aide-moi à bien compter mes jours. Oui, je vis instant par instant, mais le temps que j'ai, c'est Dieu qui me donne. C'est lui qui me donne mes jours. Donc aide-moi à bien les compter, à bien vivre mes jours, à vivre comme toi tu veux que je les vive. Nous avons besoin de sa sagesse pour vraiment investir notre vie au lieu de la gaspiller sur des choses qui ne durent pas. Nous vivons dans les corps temporaires, dans un monde temporaire, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vivre en vue de l'éternité. Hébreux 13, 14 dit, « En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir, une cité qui est permanente. » Jésus a dit à ses disciples, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. » Donc, pourquoi est-ce que je suis là s'il m'a sauvé aujourd'hui, si j'ai reçu cette vie éternelle? Ce don immense, pourquoi est-ce que je dois vivre? Rechercher d'abord le royaume de Dieu. Chercher cette cité permanente, que nous mettons nos trésors au ciel, où ils ne peuvent pas être volés, mais où ils peuvent être gardés pour nous. Donc, est-ce que je vis en vue de l'éternité aujourd'hui? Quand je passe mes jours, ce n'est pas que le dimanche et le mercredi ou je ne sais pas, quand on vient à l'église, mais tous les jours de notre vie, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Comment est-ce que je vis? Est-ce que je vis en vue de l'éternité? Dieu est éternel et il nous a fait pour l'éternité. Charles Studd, je ne sais pas si vous l'avez lu, il a écrit une poésie sur ce thème. Il n'y a qu'une seule vie, elle sera bientôt passée. Seulement ce qui a été fait pour Christ durera. Bon, c'est une belle poésie avec beaucoup de strophes, mais c'est en anglais, je n'ai pas tout traduit. Mais juste cette pensée qui est revenue dans chaque strophe, il n'y a qu'une seule vie. C'est une grande vérité à ne pas oublier qu'une seule vie, elle sera bientôt passée, mais seulement ce qui a été fait pour Christ durera. Donc ce que je fais pour sans le faire pour Christ va être passé. Mais Dieu veut qu'on vit pour lui, qu'on souffle, qu'on respire pour lui, que tout ce qu'on fait, on fasse pour lui. Tout ce qu'on fasse, on fait pour lui. Ça comporte beaucoup. C'est pas que ça doit être une grande chose, mais même des petites choses qu'on fait. Il veut qu'on les fasse pour lui. Que le Seigneur nous aide à nous confier en lui, lui qui est le maître de temps, qui ne vieillit pas.